Radio Alpha.
Bonjour à tous. Les habitants des Alpes-Maritimes seront fixés d'ici la fin de la journée. Plusieurs scénarios sont sur la table pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 qui atteint des records dans le département. Les concertations menées par le préfet sont toujours en cours. Et hier, les élus ont refusé l'idée d'un confinement généralisé, mais l'idée d'un confinement le week-end sur le littoral semble tenir la corde. L'interdiction des entrées dans le département, sauf motif impérieux, fait également partie des mesures envisagées. En attendant, plusieurs élus comme le maire de Nice, Christian Estrosi, lancent un appel aux touristes en cette période de vacances. Ne venez pas dans le département, nous en appelons à la solidarité des Français, déclare sur BFM TV la députée des Alpes-Maritimes, Marine Brunier. Les Alpes-Maritimes où le taux de positivité des tests est supérieur à 10% contre une moyenne nationale de 6%, le taux d'incidence lui atteignait vendredi les 587 pour 100 000 habitants. Dans l'actualité également, Frédéric Vidal confirme dans le journal du dimanche qu'une enquête sur l'islamo-gauchisme aura bien lieu dans les universités. La ministre de l'Enseignement supérieur et qui estime que nous avons besoin d'un état des lieux sur ce qui se fait dans la recherche en France sur ces sujets. Un débat qui fait polémique depuis la semaine dernière. 600 universitaires demandent la démission de la ministre dans une tribune parue dans le journal Le Monde. 170 pompiers toujours mobilisés au Pays Basque, dans la zone d'Ibardin et d'Ascain. Plusieurs incendies se sont déclenchés hier à la frontière franco-espagnole, des feux attisés par des vents violents. Aucun blessé n'est à déplorer, la piste d'un écobuage mal maîtrisé et privilégié. Deux fêtes clandestines interrompues hier soir par la police en Ile-de-France. Une centaine de personnes étaient rassemblées dans la capitale à proximité du périphérique parisien. La deuxième fête se tenait à Orly. Dans un stade, bilan 5 interpellations, dont 3 organisateurs et 59 verbalisations. Une intervention sous tension. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de projectiles. L'un d'entre eux a été blessé. Et puis un 18e titre en grand chelem pour Novak Djokovic. Le Serbe remporte l'Open d'Australie. Il est facilement venu à bout du russe Daniil Medvedev en 3-7. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente journée à tous.
Savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors pour vous, la Covid a été synonyme d'arrêt du tabac. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, moi je fumais depuis l'âge de 20 ans. Alors j'en ai 42 maintenant. Hein. Mmh. Et ça faisait un petit moment que je voulais arrêter, j'y arrivais pas. Et là, avec le premier confinement, ça a été un déclic.
Comment ça ?
Alors moi, je fumais très rarement chez moi à cause de mes enfants. C'était plutôt en soirée avec des amis. Mmh. Et là, avec le confinement, forcément, j'avais moins d'occasions.
Bien sûr.
Et donc un jour sans fumer, puis deux jours, et puis ça a fait tilt. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en profite pour arrêter complètement.
Alors comment vous avez fait ?
Alors j'ai appelé le 3989, c'est le numéro de Tabac Info Service, en plus c'est gratuit. Et là, un tabacologue m'a appelé régulièrement, il m'a beaucoup conseillé pour arrêter de fumer, notamment sans grossir. Hein. Et aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai pas touché une cigarette.
Et comment vous vous sentez alors ?
C'est vrai que je me sens beaucoup, beaucoup mieux.
Bravo Mélissa et merci pour votre témoignage.
Merci.
Carrefour, une bière d'excellence, quand on l'a, ça fait... Et quand ça fait, vous faites. Alors à tous les amateurs de... Jusqu'à ce soir, chez Carrefour et Carrefour Market, pour 2 bières achetées de la marque Bière d'Abbaye Lef, la troisième est remboursée sur votre carte Carrefour. Nos magasins restent ouverts et vous accueillent en toute sécurité. Carrefour.
Hors promotion, panachage possible, le moins cher est crédité sur votre carte Carrefour. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Akena Pergola, on est bien là.
Enfin Chantal, pour chercher sur internet, ça ne sert à rien d'écrire « Je cherche une pergola Akena ». Vous mettez juste akenapergola.com.
De quoi je me mêle, hein ? akenapergola.com.
Voilà.
Je le savais, Ferrand.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
C'est qui ? Oui ?
C'est qui ? Oui. Tu chez Lidl. Et dès demain, ils nous font le lot de 3 kiwis, dont un offert à 98 centimes.
Les 3 kiwis à 98 centimes ? Donc 33 centimes le kiwi.
C'est ça, c'est le vrai prix.
Oh, on est mal. Hein.
Mais je sais, on est mal. Hein. Très mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 49 centimes le kiwi vendu seul, catégorie 1, calibre 30, variété Eward, origine France. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Besoin d'une location d'appartement ?
Avez-vous pensé à la location meublée? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de commerce et du métro ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
Carrefour. Chaque semaine, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les pommes bicolores, origine France, sont au prix imbattable de 97 centimes le kilo. Et si malgré tout, vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Variété Fuji, Gala, Blue Ren, catégorie 1, calibre 115+, modalité sur carrefour.fr. Radio
Alpha. Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
Passagem de nível. Artur Silva.
Bom dia e a todas e a todos e bonjour, une nouvelle édition de Passage à Niveau et on va enchaîner comme d'habitude entre le français et le portugais. On va commencer par parler du livre Les Portugais, la guerre d'Espagne, engagement militant, solidarité et mémoire, édition Rive-Neuve et on compte avoir les historiennes qui ont coordonné la publication, Marie-Christine Volovitch-Tavache et Christine Klimaco. Mais tarde, vamos falar de língua portuguesa em França. Estão abertas inscrições nas secções internacionais, enquanto que o prazo do concurso literário organizado pela ADEPBS só termina dia 31 de março. Falaremos ainda com a possibilidade de fazer estudos no setor da saúde em Portugal. O nosso convidado será António Oliveira, secretário-geral da ADEPBA. O cantor alentejano Rancho Cantadores de Paris, apesar do confinamento ou da Covid e do recolher obrigatório, prossegue as suas atividades. Connosco o fundador do Rancho e membro da companhia Le Rêve Lucide, Carlos Balbino. Mais tarde iremos falar da segunda edição do Festival Infraction, organizado pela Biblioteca Pública de Informação do Centro Pompidou, entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março, integralmente em linha com a Fidoblis, como diria o outro. Nossa convidada será uma das programadoras do festival, Inês Carme. Mas para já, Marie-Christine Volovitch-Tavares, bonjour. Alors, cette publication sont 15 articles. Bon, on va les détailler et on attend aussi à voir Christine Kliembeko. Mais apparemment, il y a un petit problème avec son téléphone. On va essayer d'arranger les choses. Alors, on peut dire, Marie-Christine, que c'est un volet de la guerre d'Espagne qui est resté longtemps ignoré.
Absolument. Et c'est assez récemment qu'en Espagne et au Portugal, et puis en France maintenant, et en particulier avec le rôle de Christina Klimaco, que cet aspect très très important de la guerre d'Espagne, qui avait été oublié, négligé, est remis justement dans des recherches et même dans des manifestations mémorielles auprès de simples citoyens dans certaines communes du Portugal et de l'Espagne.
Alors, il faut dire que dans ce numéro, c'est une revue, mais maintenant c'est un livre, bien entendu. Il y a 15 articles, il y a 7 nombres de témoignages, donc on va défricher, c'est le cas de le dire, ce thème qui est assez large. Alors, comment ça se fait qu'il a fallu attendre la fin des deux dictatures portugaises et espagnoles pour qu'enfin on puisse parler de cette question?
Je pense d'abord qu'effectivement, les dictatures, ni l'une ni l'autre, ne tenaient à souligner la répression, la dureté de la répression qu'elles avaient infligée à leurs citoyens et d'ailleurs aux citoyens de l'autre pays avec la complicité du dictature. Et donc, je pense que les choses était mis sous le boisseau. Et ensuite, évidemment, il faut le dire, je pense, l'impulsion a d'abord été en Espagne. D'ailleurs, en lien avec aussi toutes les recherches faites en Amérique latine, après les chutes des dictatures, en particulier les recherches des corps, les recherches sur les enfants, voilà, qui avaient été volés. Et là, évidemment, au Portugal aussi, cela a commencé à avoir un écho. Et là, depuis une quinzaine d'années, et encore plus dernièrement, les recherches se font. Et c'est très important pour resituer l'histoire portugaise dans un contexte ibérique, dans un contexte européen, et même dans un contexte international, alors que la dictature salazariste avait voulu enfermer le Portugal dans son univers étendu peut-être seulement aux colonies, et c'est tout.
Et d'ailleurs, bon, il y a un article de Manerloff qu'on avait eu l'occasion de parler au sujet du livre « Nos siècles fascistes, au monde visto por Salazar y Franco, 1936-1945 », ça date déjà de 2008. Alors, je fais une petite citation. De nos jours encore est accordé dans la mémoire conservatrice portugaise le mythe de Salazar, homme providentiel qui a sauvé le pays de la guerre. Alors, il faut dire aussi que le Portugal, ça a été, disons, le pays européen plus impacté avec la guerre d'Espagne.
Ah bah bien évidemment, hein, pour deux raisons. Bon, une raison géographique parce que le Portugal est un pays voisin, mais enfin la France aussi est un pays voisin, et donc pour l'Espagne. Mais ce qui était encore plus important, c'est que il y a une complicité tout à fait grande entre les deux dictatures qui avaient conscience que la consolidation de l'une amènerait la consolidation de l'autre, de même que de l'autre côté, les républicains portugais qui luttaient depuis la dictature militaire en 1926 pour écraser, renverser cette dictature, retourner à une république plus démocratique, eh bien ces portugais et ces républicains espagnols étaient bien conscients aussi de la solidarité qui les liait. Le sort de l'un nouait le sort de l'autre.
Oui, mais en même temps, quand on parle de solidarité, il y a une solidarité de la part du peuple portugais, même au nord, Galice, justement, avec les républicains espagnols. Ça, c'est très important. Bon, et ça a été passé sous silence, tout ça.
Alors, absolument. Encore que à l'époque même, il y en a eu quelques échos. Et ça, c'est très très intéressant. Et c'est un autre volet de notre revue, ce sont non seulement les implications d'un certain nombre de personnalités, de républicains portugais exilés, mais aussi le cas de l'importance de l'émigration des Portugais en Espagne, en particulier en Galice, mais aussi au nord de l'Espagne, dans les Asturies. Et donc, la solidarité qui s'était établie dans leur mode de vie, et dans même parfois au niveau du travail et des luttes de travail, par exemple dans les Asturies, entre les immigrés portugais et des Espagnols. Et donc, au moment de la lutte de la guerre civile, ces Portugais se sont trouvés naturellement embarqués dans les mêmes luttes que ceux des compagnons espagnols qu'ils côtoyaient dans le travail. Et même, il y avait eu des mariages entre espagnols et portugais. Et d'un autre côté, ça c'est le côté Galice, hein, et le nord de l'Espagne vers les Asturies. Mais aussi, là, il y a une solidarité assez différente, mais très importante, des Portugais vis-à-vis des républicains espagnols, du côté de la frontière entre l'Alentejo et l'Extremadour, du côté de Badajoz. Mmh. Et là, tout au début de la guerre civile, les franquistes ont bombardé de façon extrêmement sauvage la ville de Badajoz, et beaucoup de républicains espagnols ont essayé de trouver asile au Portugal. Et là, il y a eu une solidarité assez importante, non seulement des gens modestes, mais aussi même de certains responsables, y compris des forces de gendarmerie qui étaient près de la frontière et qui ont refusé les ordres officiels qui étaient de renvoyer les Espagnols en Espagne, où on savait qu'ils seraient dans le meilleur des cas, fait prisonnier et parfois directement exécuté.
Mmh. Alors, il y a... Oui.
Voilà, donc c'est très important qu'il y ait... Nous avons mis ces deux volets dans ce numéro. La lutte d'un groupe d'exilés et de personnalités exilées républicains portugais en Espagne et leur forte solidarité avec les républicains espagnols à tous les niveaux, y compris au niveau de l'engagement militaire, mais aussi les imbrications complexes des travailleurs immigrés portugais avec les travailleurs espagnols ou même tout simplement la solidarité, par exemple, du côté de la frontière proche de Badajoz, là, dans la commune de Barrancos.
Alors, il y a une chose étonnante, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'il y avait une masse énorme d'immigrés portugais qui travaillaient en Espagne. Ça, c'est une partie aussi de l'histoire que c'est passé un peu inaperçu.
Ça, c'est vrai, et on continue à essayer de développer cette recherche. Mais c'est assez difficile, parce que justement, c'est une immigration qui très souvent n'était pas du tout répertoriée, cataloguée. Souvent des gens qui n'avaient pas nécessairement des papiers officiels pour s'installer comme immigrés. Et en plus, au moment de la guerre d'Espagne et de la répression, il y a eu assez souvent des confusions établies entre ceux qui étaient des Portugais et ceux qui étaient des Espagnols. Que ce soit d'ailleurs au niveau de la répression en Espagne, mais même en France, quand les républicains se sont repliés sur la France, tout au départ, les Français ont confondu espagnol et portugais. Et parfois même d'ailleurs avec on peut pas dire la complicité, mais la décision d'un certain nombre de Portugais qui n'avaient pas envie, pour des tas de raisons, de se désolidariser ou de se distinguer de leurs compagnons espagnols.
Alors justement, 36-39, bon, c'est ce qu'on a dit, la guerre civile espagnole. Franco a eu de l'aide internationale, a commencé par les nazis. On va y parler aussi des nazis, des camps de concentration nazis. Mais enfin, donc il y avait des exilés. Donc l'opposition portugaise les exilés étaient en Espagne. Et donc, on a parlé également des immigrés portugais. Bon, il y avait des communistes, il y avait des anarchistes, etc. Là, il fallait choisir son camp. Soit les républicains, soit les armées nationalistes. Alors, il y a quelque chose je me suis rappelé que M. Spinola, pour parler de lui, justement, il avait fait partie de la Légion, on l'appelait la Phalange. Donc là, c'était clair et net pour les Portugais, mais ce monsieur Spinola, le fameux général, était là-bas avec une division portugaise. Bon, ça veut dire beaucoup de choses aussi de la part de Salazar.
Alors, ce qui est vrai, et ça, c'était déjà assez étudié, les différentes formes d'implication de Salazar dans l'aide à l'insurrection nationaliste espagnole. Déjà au moment de la République, après 1931, quand la République a été proclamée en Espagne, une partie de l'extrême droite espagnole s'est réfugiée au Portugal avec l'appui de Salazar. Et cet appui a continué avec le déclenchement de la guerre civile, un appui idéologique, un appui pour la propagande franquiste faite depuis le territoire portugais, un appui pour la fourniture d'armes, un appui international pour freiner les possibilités d'intervention en faveur des républicains espagnols. Et alors, l'engagement militaire n'a pas été stricto sensu évident. Ce n'est pas comme Hitler et Mussolini qui ont envoyé non seulement des armes, mais qui se sont carrément engagés militairement. Là, Salazar a permis la fourniture d'armes. Il a envoyé aussi des instructeurs militaires qui se sont trouvés à Burgos auprès de l'état-major franquiste. Et alors, le cas assez particulier qui est étudié dans un de ces numéros, des fameux viriatos, qui étaient des Portugais, dont certains d'ailleurs avaient été engagés du côté des franquistes, mais de façon tout à fait mensongère. Certains étaient des travailleurs qui d'ailleurs avaient cru partir travailler en Espagne. D'autres étaient allés volontairement, et ces viriatos n'étaient quand même pas... Salazar s'est maintenu à la lisière de l'engagement total. Et donc, ces viriatos n'ont jamais été véritablement désengagée officielle au nom du gouvernement portugais. Et d'ailleurs, après avoir été un court moment glorifié, ils ont été complètement abandonnés par le régime, y compris ceux qui avaient été blessés, qui avaient perdu beaucoup de choses.
Mmh. Alors, Marie-Christine, il faut quand même dire, bon, on a parlé de la participation de l'Italie, de l'Allemagne nazie, etc., etc., mais à l'époque, on avait le Front populaire en France, donc ils étaient neutres, entre guillemets, mais donc ça manquait aussi. Bon, ça dépasse un petit peu le thème de la revue, mais je pense qu'il faut le signaler quand même.
Alors, c'est très compliqué en ce qui concerne la France. C'est vrai qu'il y a eu un gouvernement de Front populaire au printemps 36, mais ensuite le Front populaire a subi des difficultés politiques et tout le long de la guerre civile espagnole, on peut pas dire que c'était le Front populaire qui gouvernait. Alors la position du gouvernement français et en particulier des autorités socialistes, ça a été d'aider les républicains espagnols, mais sans s'engager au point de rentrer en guerre avec l'Allemagne, parce que c'était ça l'horizon qu'ils craignaient. Bon, en définitive, les malheureux, c'est quand même ça qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'engager la France dans une nouvelle guerre à peine 20 ans après la première, c'était extrêmement difficile. Mmh. Donc le gouvernement français, d'une part, a fermé les yeux et a laissé un certain nombre d'armes qui venaient de France, bon, d'autres d'Union soviétique, arriver en Espagne. Et d'autre part, le gouvernement français a essayé, d'un point de vue international, d'empêcher l'intervention d'Hitler, l'intervention armée d'Hitler et Mussolini. Et là, en fait, le gouvernement français n'a pas été bien aidé par le gouvernement anglais, qui était un gouvernement conservateur et qui ne voyait pas d'un très bon œil le Front populaire espagnol, et donc qui a tergiversé. Et donc le gouvernement français a navigué entre des positions de soutien assez fort et puis au contraire des positions de retrait. Et ça a été la même chose au moment de la débâcle espagnole. Mmh. Et là, dans ce livre, il y a un article qui est très intéressant justement sur des passages de frontières. Il y a plusieurs articles qui reviennent sur les passages de frontières entre la France et l'Espagne dans les deux sens. Et qui montre à la fois la solidarité d'un certain nombre de Français. Et bon, là, c'était le cas des communistes français qui est souligné, mais il y a d'autres groupes français qui étaient très actifs pour solidarité avec la République espagnole. D'ailleurs, beaucoup de ces groupes ont été à l'origine des premiers groupes de résistance en France.
Hein. Oui, très important. Parce que bon, il faut mettre le contexte aussi, il y avait les brigades internationales. On a eu des grands, beaucoup de personnes. Bon, maintenant, ça vient en tête George Orwell, par exemple, qui est allé là-bas. Alors, justement, les brigades internationales, il y a pas mal de Portugais qui étaient dedans. Donc, on arrive à 1939.
Ah, donc, mais je voudrais quand même repréciser, oui, là, Christina Primaco, c'est un peu dommage qu'il y ait des problèmes de connexion, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et son article, justement, souligne la complexité. Parce que, justement, beaucoup de Portugais qui ont combattu auprès des républicains espagnols n'étaient pas dans les brigades internationales. Parce que ce n'est pas le processus par lequel ils s'étaient engagés. Que ce soit les exilés opposants républicains portugais, déjà très liés à un certain nombre de républicains espagnols et qui se sont impliqués, y compris à aller au niveau de l'état-major, de façon très importante, mais complètement intégrés à l'armée républicaine espagnole. Ou que ce soit de ces travailleurs immigrés portugais qui aussi se sont engagés dans les milices populaires avec leurs camarades espagnols, en particulier en ce qui concernait les groupes anarchistes. Et donc, en fait, il y a peu de Portugais qui se sont engagés au titre des brigades internationales. Si bien qu'effectivement, les Portugais apparaissent très peu. Et maintenant, bon, il y a quand même des recherches qui montrent que certains qu'on a pris pour des Espagnols étaient des Portugais. Mais même l'importance de l'engagement des Portugais auprès des républicains espagnols ne peut pas être mesurée comme celle des autres étrangers, et en particulier ceux dans les brigades internationales. C'est beaucoup beaucoup plus important, l'engagement portugais, et il ne s'est pas fait essentiellement dans les brigades internationales. C'était aussi, mais en partie.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans l'article de Christine Klim, l'invisibilité des internés portugais dans les camps français 1939-1940, ressortissants espagnols ou internationaux, point d'interrogation. Alors, justement, Christine Klim, elle écrit, à leur entrée en France, les Portugais de l'Espagne républicaine perdent leur visibilité transformée par l'administration française en brigadistes ou fondus dans la masse des ressortissants espagnols. Donc, ça dit tout, ça.
Oui, c'est ça. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et pour montrer que, les Français, l'administration française, elle a voulu faire des classements. Et ce qui leur semblait plus simple, elle est passée par la structure des brigades internationales pour répertorier l'ensemble des Espagnols et des étrangers. Mmh. Donc, d'une certaine façon, soit les Portugais avaient été enregistrés ou ont été enregistrés par les responsables des brigades internationales en tant que membres des brigades, y compris pour ceux qui ne l'avaient pas été, qui avaient combattu dans d'autres unités. Et aussi, les Français, on sait bien, maintenant les Français commencent à connaître bien le Portugal et les Portugais, mais on sait très bien que pour l'administration française et beaucoup de Français, pendant longtemps, le Portugal était une province d'Espagne. Donc, mais d'ailleurs, ça a été aussi cette confusion entre espagnol et portugais. D'une part, Cristina Climaco explique bien que d'ailleurs, certains Portugais y ont contribué. Certains qui avaient épousé des Espagnols, certains qui ne parlaient presque plus portugais, qui étaient complètement intégrés dans le milieu espagnol, donc ça leur a semblé naturel, ils étaient embarqués avec les Espagnols. Mais même en Espagne, dans l'article qui étudie les Portugais qui ont été mis dans un des camps de concentration franquiste, là, près de Burgos, eh bien, au début, avant que les Portugais soient séparés des Espagnols, au départ, même les Espagnols les ont mis avec des Portugais. Et d'ailleurs, dans la solidarité qu'il y a eu entre les villages de Galice et des villages au nord du Portugal, dans des régions vers Chaves, où depuis longtemps, d'ailleurs, il y a des échanges très forts, on sait bien qu'en plus, les Galiciens et les Portugais du Nord sont extrêmement proches. Donc, cette confusion espagnole-portugaise, elle tenait à la situation même réelle, par exemple, entre Galice et Minho, et aussi aux confusions que les Français, et même aussi les Espagnols, ont fait. Donc c'est pour ça que c'est assez récent qu'on commence à mettre en évidence l'importance, la diversité de cette implication de Portugais dans la guerre d'Espagne.
Alors, de tout à l'heure, je parlais de 39, donc c'est retirade, à savoir cette vague de personnes qui essaient de fuir au régime de Franco. Donc, beaucoup de Portugais. Alors, les autorités françaises, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? De créer des camps d'internement. Alors, ça, c'est encore une autre histoire, parce que vraiment, ils avaient des conditions de vie complètement déplorables.
Alors oui, ça, ce qui s'est passé, c'est que justement par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure des contradictions des gouvernements portugais, en 39, c'était plus le gouvernement de Front Populaire qui était là, et malgré les avertissements qui étaient donnés aux Français par des responsables français qui étaient sur place, le gouvernement français n'a pas envisagé l'ampleur du nombre de réfugiés qui allaient se précipiter en France. Alors, il y avait des réfugiés espagnols en France depuis le début de la guerre civile, en particulier quand tout le nord de l'Espagne a été conquis par les franquistes. Mais là, le dernier épisode, c'est la conquête de la Catalogne, et il y a eu en quelques semaines environ 500 000 réfugiés, surtout des combattants, mais aussi des femmes, des enfants, des personnes âgées qui fuyaient devant l'avancée des troupes franquistes et qui sont entrées en France, donc par la frontière du côté de sur la côte catalane. Et donc là, le gouvernement français a d'ailleurs un petit peu hésité à ouvrir la frontière. ça a été ouvert quand même assez vite. Mais là, il y avait une grande crainte de l'arrivée de 500 000 personnes, et dont une partie d'ailleurs était des combattants qui venaient avec pas un armement terrible, mais enfin qui venaient avec leurs armes. Alors quand on voit maintenant toutes les histoires qu'on fait pour 2-3 exilés, on se rend compte que 500 000 personnes, ça a évidemment assez submergé et impressionné le gouvernement français, qui d'ailleurs, pour les accueillir, a ouvert, on peut même pas dire ouvert, les a installés parfois même de façon absolument catastrophique, carrément sur les plages
du Roussillon, du
côté, voilà, au sud de Perpignan, sans rien du tout. Et comme quand même on craignait une partie du gouvernement et une partie de l'opinion publique française, ces rouges espagnols qui faisaient peur, et donc on les a désarmés. Et ce qui a été assez tragique d'ailleurs pour ces républicains espagnols, c'est que les Français ont beaucoup utilisé les troupes coloniales françaises pour cet encadrement et ce désarmement des républicains espagnols. Or, en Espagne, les troupes coloniales, elles ont combattu du côté de Franco. Et donc, ça a fait quand même un choc supplémentaire. Et donc, ensuite, après, le gouvernement français a essayé quand même de disperser ces réfugiés. Une partie, en particulier les femmes et les enfants, ont été mis dans d'autres endroits à l'intérieur de la France. Et les hommes ont été mis alors effectivement dans des camps construits à la hâte. Avec des statuts, ça a été assez compliqué. Les conditions, on ne faisait pas exprès de les maltraiter. C'est pas les camps nazis. Mais le fait qu'ils étaient qu'ils étaient surveillés, qu'ils n'étaient pas très bien nourris, qu'au départ, évidemment, ils étaient très mal logés, si on peut même dire. Il y a une partie d'entre eux qui ont construit leur propre baraquement. Et donc après, la guerre a été déclarée fin 39. Une partie d'entre eux avait été sollicité pour soit s'engager dans la Légion étrangère française, soit comme travailleur en cas de guerre, on a toujours besoin de main-d'œuvre, surtout quand la main-d'œuvre française est mobilisée dans l'armée. Et puis, évidemment, le nœud s'est resserré. Et avec la rapide défaite française, un certain nombre d'entre eux se sont retrouvés piégés dans des camps. Et d'ailleurs, la situation dans ces camps s'était dégradée. Et une partie d'entre eux ont été cueillis par les nazis et déportés. Et donc, il y a des recherches qui sont faites actuellement, justement, sur...
Le nombre de Portugais, qui se sont trouvés dans des concertations de Troisième Reich. Mais il y a un point positif, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont participé à la résistance en France. Je pense maintenant à Émile Duguerel, par exemple. C'est quelqu'un qui a combattu avec les républicains en Espagne. Après, lui, il a fait de la résistance aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on commence petit à petit à se lever le voile. Il y a des noms, il y a certain nombre de choses, que ça apparaît aussi.
Ah oui, et d'ailleurs, nous avons là dans les articles un article qui concerne Alberto Alexandrino dos Santos, qui était donc un militaire portugais républicain anti-salazariste, qui a combattu déjà avant la guerre civile espagnole pour faire tomber la dictature portugaise, qui ensuite a eu un rôle important dans l'organisation de l'armée républicaine et qui réfugié en France. D'ailleurs, lui, il a réussi de façon assez glorieuse à passer la frontière, y compris avec les hommes qui étaient avec lui, qui étaient bien organisés et encore armés. Et d'ailleurs, je voudrais bien savoir l'origine, puisqu'il semblerait que cet homme-là s'était engagé pendant la guerre de 14-18 dans l'armée française. Il n'a pas fait partie du corps expéditionnaire portugais. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas, je vais écrire au responsable de l'article. Et en tous les cas, cet homme-là, réfugié en France, a réussi à sortir des camps de regroupement et a été un homme extrêmement actif dans la résistance française Et d'ailleurs, il est resté en France, il est mort à Toulouse, après, enfin, être continuellement honoré par les républicains espagnols. D'ailleurs, lui-même se revendiquait comme étant ibérique. Et ça, c'est très intéressant. Beaucoup de ces Portugais avaient justement ce sentiment de solidarité ibérique, de combat pour une république démocratique.
Alors, c'est étonnant aussi, c'est qu'un certain nombre de monuments, même aux États-Unis, en honneur des républicains espagnols, au Portugal, il n'y a pas grand-chose, peut-être au niveau régional, mais c'est au niveau du peuple. Alors, c'est très important aussi, et ça, c'est bon, on arrive à trouver des archives personnelles dans ce numéro de la revue, bon, dans son livre, Les Portugais à la guerre d'Espagne, engagement militant, solidarité et mémoire, d'où l'importance, les enjeux de la mémoire, c'est quelque chose de très important.
Oui, 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 et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons tenu, de même que nous avons tenu à faire traduire presque tous les articles en français pour que le public français qui connaît très mal cette histoire puisse y avoir accès. Mais nous avons gardé deux témoignages, un en espagnol, un autre en portugais, de vie familiale. De ce quelques modestes Portugais qui ont été embarqués dans cette histoire tragique et dont le souvenir commence à revenir, de même que il y a dans l'article de Manuel Loff qui fait une mise au point historiographique très précise, l'allusion d'ailleurs tu en parlais à ces actions mémorielles. Soit du côté de la frontière vers Chaves, soit du côté de Barrancos, là, du côté de
Badajoz,
avec voilà une implication carrément de la population portugaise locale dans ces commémorations mémorielles et ces recherches de cette histoire qui avait été mise sous le boisseau. Mais à laquelle beaucoup de gens s'intéressent manifestement. Il y a toute une équipe de recherche gallico-portugaise avec de la recherche de témoignages, d'interviews. Donc ça dépasse très largement des recherches historiques classiques avec le recours à toutes sortes de souvenirs, récits, témoignages. Donc sur ces situations de solidarité et de complicité, d'ailleurs, entre Portugais et Espagnols à l'occasion de la guerre d'Espagne.
Oui, ça peut me servir aujourd'hui, je crois. Mais enfin, alors, dernière question, mais je vais lire un extrait de la présentation du livre, Marie-Christine Volvic-Tavache. Je cite, « Destin partagé avec les républicains espagnols, les Portugais ont été doublement vaincus. Par l'histoire et par la mémoire, le présent ouvrage entend leur rendre hommage. »
Oui, et là, il faut dire que Cristina Climaco, c'est un peu dommage là, qu'elle n'ait pas pu intervenir.
Non, problème téléphone.
Parce que vraiment, nous avons travaillé toutes les deux, mais son rôle a été très important parce qu'elle, elle travaille depuis très longtemps, depuis la thèse qu'elle a soutenue dans les années 90 sur les républicains espagnols, portugais en exil en France. Depuis, elle continue à travailler sur ce sujet. Et donc, ça nous a permis de véritablement, dans ce numéro de revue de notre groupe de recherche, là, le CERMI, vraiment de, je crois, vraiment faire connaître et de façon, je crois, assez sensible pour un large public extrêmement différent, avec des articles plus de caractère historique classique, mais d'autres avec beaucoup de récits de biographies, de destins personnels, collectifs. Je crois vraiment qu'ils peuvent intéresser énormément de gens qui s'intéressent à l'histoire portugaise, à l'histoire démocratique du Portugal et de l'Espagne.
Et à l'histoire européenne.
Voilà, absolument. Et avec des implications en ce qui concerne la France, en ce qui concerne d'autres pays d'Europe. Là, il est question justement des immigrés aux États-Unis qu'on a cherché à mobiliser dans cette solidarité avec les républicains espagnols et portugais, les exilés au Brésil, les gens exilés en France. Donc ce numéro, au contraire, permet, avec d'autres travaux qui sont faits maintenant, de montrer en quoi le Portugal est impliqué dans toute une évolution historique européenne et mondiale, et non pas un petit pays replié sur lui-même à l'écart de tout.
Alors, je rappelle, les Portugais, la guerre d'Espagne, engagement militant, solidarité, mémoire, Rive-Neuve, édition. Donc, ça fait plus de 500 pages, mais c'est une page aussi de notre vie passée. Et si on connaît pas le passé, on peut pas regarder l'avenir. Et à propos de Christine de Cliembeco, je pense, Marie-Christine, tu faisais allusion au livre Republicans, Anarchistes et Communistes no Exílio, 1927-1936, Edições Colibri, que datam de 2017 e que obteve o prémio da Fundação Mário Soares. Marie-Christine Dolevich, obrigado. Aparentemente, o telefone da Christine de Cliembeco está desligado, mas enfim. E já agora, bom, como dirait l'autre, un petit clin d'œil, maintenant on va passer par Kibanez. Le titre, la poésie est une arme cargada de futur. Obrigado, Marie-Christine.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Alfa 98.6.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ? Ah là je suis pas bien, hein. Je suis blanc, mais blanc.
Comment ça blanc ?
Eh ben blanc comme une endive. Je suis chez Lidl et là ça va vraiment pas. Dès demain, ils nous font le sachet de 5 endives à 1,39€.
Quoi ? Le sachet de 5 endives à 1,39€ ? Non mais c'est une blague.
Oh bah non, c'est le vrai prix et origine France. Hein.
Eh ben on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Quand Sarah a pris la fibre Orange, c'était uniquement pour une meilleure fluidité.
Lors des réunions en visio, pendant que Léo
suit les cours à distance.
Oui, oui, et un peu aussi...
Pour regarder les meilleures séries en 4K.
Ah, quand même. Léo, lui, il trouve que...
Si t'as pas la fibre Orange, bah personne veut jouer en ligne avec toi.
Avec la fibre Orange, une maison mieux connectée, c'est aussi mieux travailler et se divertir. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable en métropole sous réserve d'éligibilité, avec contenu et matériel compatible. Conditions sur orange.fr.
Leclerc.
Tu vois, comme on peut plus aller au resto, moi je nous fais resto, mais à la maison.
Genre avec la nappe et tout ?
Ouais ! Et regarde, le dessert, crème brûlée à la vanille naturelle, bonne maman.
Carrément.
Du 16 au 27 février, il y a 60% de réduction immédiate sur le deuxième format gourmand de 4 fois 100 grammes. Ça fait 5,41€ le kilo.
Ah mais du coup, ça te fait 8 crèmes brûlées ? Tu m'en passes une ?
Oh là, pas touche, ça brûle !
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Pour Mélissa, le premier confinement a été synonyme d'arrêt du tabac. Elle nous a raconté qu'elle fumait depuis l'âge de 20 ans et qu'elle avait déjà plusieurs fois essayé d'arrêter sans succès. Pour elle, c'est la Covid qui a été le déclic. En effet, Mélissa, confinée, ne voulait pas exposer ses enfants à la fumée de cigarettes. Elle a donc diminué sa consommation et elle a appelé le 3989 pour qu'un tabacologue de Tabac Info Service l'accompagne. Résultat, ça fait 8 mois que Mélissa a complètement arrêté de fumer.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Oh, j'étais tellement impressionnée la première fois que tu m'as présentée à tes amis.
Tu parles. C'est plutôt eux qui ont été impressionnés par ton assurance.
C'est tout ?
Non, et ton incroyable sourire.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur Mythique.fr.
Mythique. Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie hypermarché. Quand on fait ses courses... Et que dès 100€ dépensés sur tout l'alimentaire, l'hygiène beauté et les produits d'entretien, on gagne 10€ en bon d'achat. Ben on fait. Alors rendez-vous dans vos hypermarchés Carrefour jusqu'à ce soir pour profiter de 10€ en bon d'achat. C'est ça, être partenaire de votre budget Carrefour.
Hors vin, champagne et parapharmacie, offre limitée à un bon d'achat de 10€ par foyer, valable du 22 au 28 février. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Radio Alpha.
But, la queue en brie s'est refait une beauté. Et pour fêter ça, jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Meubles, électro, images et sons, literie, cuisine et décoration. Sur plus de 6000 mètres carrés, on vous attend. But, la queue en brie, route de Noiseau, RN4, la Croix-Saint-Nicolas. Offre valable du 9 février au 8 mars.
But, des prix et des idées tous les jours.
Estamos aqui ao direto e vamos falar da língua portuguesa e não só. Com efeito, relembro que estão abertas as inscrições nas secções internacionais portuguesas, nos liceus, colégios e mesmo escolas primárias e não só. Ditas internacionais, isto é bastante importante. E para já, vamos até onde? Vamos, por simplesmente, até Brie-sur-Marne, António Oliveira. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, relembro o secretário-geral da AU da DPBA e atualmente está a lecionar no Colégio Henri Cannes em Brie-sur-Marne. As inscrições até o dia 12 de março. Donc, portanto, é uma secção internacional de língua portuguesa. É bastante recente, não ainda?
Sim, ela existe há 3 anos. Uhum. Os alunos estão em 4e e, portanto, para o ano estarão em 3e com passagem para o Liceu Internacional de Noisy-le-Grand, esperamos. Portanto, é uma secção bastante recente, efetivamente.
Ora, evidentemente que todas as candidaturas, ainda por cima estamos em férias escolares, tudo é feito através da internet por causa da Covid, não é?
O que quer dizer? Portanto, pode efetivamente ir ao site do colégio, ou ao blog, mais precisamente, e, portanto, pode descarregar o dossiê, mas também podem passar no colégio, que podem muito bem, portanto, preencher o dossiê tem que preencher pelos pais, mas também preencher pelos diretores das escolas e pelos professores. Portanto, esse tem que dar a opinião deles, porque há uma seleção, evidentemente, para entrar na CISEM. Agora, o que é importante dar como informação é que não há, como se diz, mesure de carte scolaire, quer dizer que não se destina unicamente aos alunos de Paris-sur-Marne, mas todos os alunos deviam em volta, por exemplo, de cidades como Champigny, Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Le Perreux, portanto, são cidades em volta, porque os alunos, evidentemente, têm que ter a possibilidade de vir às aulas e, além daí, vai ser complicado. Alunos da CISEM têm que, os pais vêm, por vezes vêm de metro, vêm de autocarro. Enfim, é portanto, mas o que é importante é saber que não há mesure de carte scolaire. Está aberto a todas estas cidades em volta.
E é um ensino público e gratuito, é que eu referi.
Sim, exatamente. Faz parte da educação do Ministério da Educação Nacional Francesa.
Ora, isto é bastante importante porque, bom, com o Covid estamos a criar um certo número de problemas. Ora, quem fala Covid fala de saúde. E eu descobri algo que é o GEVS. É como quem diz, é a possibilidade que jovens que estão aqui no ensino francês, que possam, por exemplo, ir para uma escolher uma profissão de saúde e até podem ir estudar para Portugal, é verdade?
Sim, portanto, foi uma plataforma, nós só demos essa informação, quer dizer, no nosso site, e esse GDS, quer dizer que é grande escolas europeias de saúde. Uhum. Portanto, lançaram uma plataforma que é hipocrate.io, e essa informação está no nosso site, adpva.fr, mas não é da nossa responsabilidade, portanto, é uma plataforma, porque, como sabem, é extremamente difícil entrar nas universidades de medicina em França, porque há uma seleção que é terrível, e portanto esta plataforma ajuda a candidatos de origem ou não, mas eu penso que a maior parte são de origem, quer dizer que já falam a língua, embora eles propõem também o ensino do francês no primeiro ano e com uma formação em português. E portanto, eles têm uma parceria com três institutos superiores em Portugal, que é a EGAS Muniz em Lisboa, tem também a CESPU no Porto e a Vasco da Gama em Coimbra. Portanto, nós demos esta informação e eles dizem que é gratuito, que são estas universidades é que financiam. Portanto, se pedirem dinheiro, há que estar atento, porque nós não somos responsáveis. Quer dizer, todos isso são institutos privados, portanto, há que ter sempre cautela. Mas há esta possibilidade para quem quiser estudar para Portugal.
Aliás, é o que eu digo, os candidatos franceses não pagam nada. Bom, enfim, aparentemente em 2015 havia à volta de 6 dezenas e atualmente haveria 2 mil, digo bem 2 mil. Ora, isto diz respeito a 8 formações do setor da saúde, que são propostas por 3 universidades parceiras, precisamente do GEDS, Hipocrate. Mas enfim, vão ao site da ADPBA, vão ter todos esses dados. Agora, a ADPBA, o confinamento e a Covid, bom, modificou-nos completamente tudo aquilo que estava a ser previsto, a começar pelo concurso escolar, que o prazo foi prolongado até o dia 31 de março.
Exatamente, quer dizer, normalmente foi um concurso lançado o ano passado, em 2020, os prémios deviam ser entregues em 2020, mas por causa da Covid não foi possível. Portanto, nós decidimos de prolongar até este ano, até o dia 31 de março, portanto, nós esperamos que os alunos possam enviar até esta data e esperamos que a entrega dos prémios seja no dia 5 de maio em Paris. Na Unesco, exatamente, mas bom, não sabemos, mas esse é o nosso objetivo. Faremos tudo para que se possa ser feito na Unesco no dia 5 de maio. E, portanto, espero que haja muitos candidatos, porque o ano passado, infelizmente, tivemos que anular porque não havia candidaturas. Portanto, esperemos que este ano haja muito mais candidaturas, evidentemente.
Sim, tanto mais que já há um ano que andavas com a vida às costas, não? Há que não esquecer.
Exatamente, é um problema. Mas agora a única diferença é que o ano passado, a partir de março, do 16 de março, houve um confinamento geral, que as aulas, portanto, foram, quer dizer, não havia aulas em presencial.
Presencial, pois.
Mas este ano a diferença é que há aulas, portanto, os professores podem acompanhar os alunos, e essa é a grande diferença que há em relação ao ano passado.
Significa para... Em princípio, são os professores que lançam esta iniciativa junto aos jovens, ou como é que as coisas decorrem?
Quer dizer, os professores é que anunciam este concurso, evidentemente. Os professores depois ajudam, apoiam, mas um aluno pode participar individualmente, ou a dois, três, quatro no máximo. Portanto, o aluno é livre. Mas nós sabemos que se o professor, sobretudo na escola como no colégio, se o professor não estiver por trás para incitar os alunos a participar, por vezes é complicado. Portanto, esperemos também o apoio dos nossos colegas professores, mas um aluno pode participar individualmente, se estiver no colégio, na escola primária, no colégio e no liceu.
Sim, isto é através de diversas formas, não só escrito, mas oral, visual, isso tudo.
Sim, pronto, também no nosso site tem um folheto com o regulamento, portanto podem ver, tem várias formas, evidentemente, vai do texto ao vídeo, ao áudio, enfim, depende da imaginação, da criação de cada aluno.
De maneira que o melhor ADEPBA vão ao site, vão igualmente no Facebook, dão todos os detalhes.
Exatamente, também se para acrescentar que é em parceria com a Rádio Alfa este concurso, portanto, não esquecer.
É verdade, e nós estamos aqui para isso. Uma última pergunta, António de Oliveira, que olhar tem precisamente sobre o ensino de português aqui, com a entrada em vigor da reforma do BAC, do Liceu? Porque vocês, a nível da ADPBA, estão muito atentos a esta questão. Que balanço faz?
Quer dizer, com a história do Covid, etc., a reforma foi adiada. Eu penso que ainda começar a fazer um balanço é muito cedo, mas evidentemente que houve modificações. Por exemplo, a LV3, que é a língua que pode ser escolhida em segundo, os alunos até agora tinham a possibilidade de continuar a LV3 até terminar, e depois em terminal inscrever-se em LV1, LV2, LV3, tinham essa possibilidade. E isso agora modificou, quer dizer, que um aluno que está em LV1 só pode passar em LV1, LV2, LV2 e o LV3, que agora já nem se chama LV3, enfim, chama-se LVC, mas ainda normalmente quer dizer LVA, LVB, LVC, eles agora não têm, se continuarem LVC, não têm concurso nenhum, e essa nota é só a nota, a média anual, é que vai contar na nota global, quer dizer, é uma coisa mínima, e isso pode muito bem não incitar os alunos a escolher, e esse é o nosso receio. Agora, mas por agora ainda é muito cedo para fazer um balanço, quer dizer, é isso.
António Oliveira, muito obrigado. Como era daqui até o dia 31 de março, voltaremos ao assunto. E no dia 5 de maio, que é o dia da língua portuguesa, em princípio deve ser celebrado.
É o dia 5 de maio, em todo caso, já é o dia da língua portuguesa.
Pois, mas enfim, já aqui o ano passado as coisas foram adiadas igualmente. Esperemos que este ano que a Covid vá dar um passeio lá até Marte, já agora. Porque
vá lá
à procura de água, como diria outro, enquanto vai-se à procura de água em Marte e em África, morrem cada minuto que passa dezenas e dezenas de crianças por falta de água. Mas enfim,
vai ser outra coisa.
Andamos de pernas para o ar. Obrigado, António Oliveira.
Obrigado e até breve. Boa tarde a todos.
Já falámos de escola, nada melhor que passar um bocadinho de música. Era ainda pequenina, uma canção popular portuguesa, mas vista por Jazz Band, João Paulo, Ricardo Dias e Paulo Epstein. Era ainda pequenina.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
São 13 horas. Rádio Alfa.
Bonjour à tous. De nouvelles mesures attendues dans les Alpes-Maritimes pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19. En visite à Nice hier, Olivier Véran a estimé que le couvre-feu actuel ne suffisait plus dans le département où les contaminations explosent. Résultat, les Alpes-Maritimes pourraient devenir le premier département métropolitain à mettre en place un confinement local. Et hier, les élus ont toutefois refusé l'idée d'un confinement généralisé. Il pourrait être limité au week-end et uniquement sur la zone du littoral, celle qui attire le plus la foule. Les concertations avec le préfet se poursuivent, décision attendue d'ici ce soir. De son côté, l'Allemagne s'apprête à classer la Moselle comme zone à haut risque, une décision qui pourrait entraîner l'obligation de présenter des tests négatifs au Covid-19 de moins de 48 heures pour pouvoir entrer sur le territoire allemand. Berlin pourrait aussi fermer ses frontières au moins partiellement, comme elle l'a déjà fait avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol. Dans l'actualité également, l'assaillant présumé de l'attaque au couteau à Pau présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Sa garde à vue a été prolongée hier après la mort d'un directeur de centre d'accueil pour réfugiés vendredi. La procureure de Pau a donné des précisions sur le parcours du suspect. Ce Soudanais de 38 ans est un demandeur d'asile qui devait être expulsé de France suite à une ancienne condamnation pour une rixe à l'arme blanche. 170 pompiers toujours mobilisés au Pays Basque dans la zone d'Ibardine et d'Asquin. Plusieurs incendies se sont déclenchés hier à la frontière franco-espagnole, des feux attisés par des vents violents. La piste d'un écobuage mal maîtrisé est privilégiée. À la page des sports, sans trembler, Novak Djokovic remporte l'Open d'Australie, son 9e titre à Melbourne, mais surtout son 18e sacre en Grand Chelem. Son adversaire, le russe Daniil Medvedev, est passé complètement à côté de son rendez-vous. Victoire du Serbe en 3-7, 7-5, 6-2, 6-2. Et puis du foot, le choc ce soir en Ligue 1. Le PSG reçoit Monaco à 21h au Parc des Princes. La 26e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec 6 affiches au programme. Le coup d'envoi de Montpellier-Rennes vient tout juste d'être donné. Voilà pour l'essentiel de l'info. Très bonne journée à tous.
Savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Aujourd'hui, j'ai reçu le docteur Nadia Lalou pour qui la période de Covid ne doit pas briser la dynamique de baisse du tabagisme constatée depuis 2014 en France. Pendant le premier confinement, Santé publique France a constaté qu'un fumeur sur cinq a diminué sa consommation. Le docteur Lalou nous a donc rappelé que même en cette période difficile, arrêter de fumer, c'est possible. C'est un défi positif et Tabac Info Service est à vos côtés pour vous y aider.
Nous sommes assistantes maternelles, employés familiaux,
auxiliaires de vie.
Nous sommes presque 1 million en France.
Mais qui nous représente? Qui nous accompagne? Qui nous défend?
Bayel UNSA. Pour nous, assistantes maternelles et salariés de particuliers employeurs, l'UNSA propose toute une gamme de services. Formation, conseils personnalisés, protection juridique. Découvrez tout ce que l'UNSA fait pour nous sur moninsa.org.
Moins seule, plus forte avec l'UNSA.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron?
T'arrêtes de me faire mariner, oui.
Désolé, hein, mais dès demain, les deux pavés de bœuf marinés à l'échalote sont à 3,29€ les 260 grammes, moins 14%.
3,29€ les deux pavés marinés à l'échalote?
Eh oui, de la viande bovine française.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 12,65€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 2 mars. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Tu sais quoi? C'est décidé, je le plaque. Ça fait 5 ans que je le supporte. Mais là, terminé. Trop, c'est trop.
Mais qu'est-ce qui t'a décidé?
Mais avec lui, plus aucune liberté. Le shopping, la plage, les amis, j'oublie.
Et pour les enfants?
Ils ont envie d'une maman épanouie, non?
C'est clair.
Aujourd'hui, je dis stop. Je veux retrouver ma vie d'avant. C'est clair et net. Je plaque mon pso et j'en parle au dermato.
Pour le psoriasis, des solutions existent. Parlez-en au dermatologue. Rendez-vous sur c'estclairetnet.fr. AbbVie, en partenariat avec France Psoriasis, le soutien de la Société Française de Dermatologie et du groupe de recherche sur le psoriasis. Radio
Alpha. SFB, Société Francilienne de Béton, producteur de béton prêt à l'emploi, met à votre service son expérience pour réaliser votre terrasse, votre allée de garage. La société SFB répond à vos besoins. SFB, téléphone 01 81 80 58 23. 01 81 80 58 23.
Lusitânia Market, o seu espaço de alimentação portuguesa e churrasqueira, onde encontrará todos os bons produtos da nossa terra. Continue a aproveitar as promoções no Lusitânia Market. Este mês, vinho tinto Monsaraz, apenas 15,99€ a caixa de 6 garrafas. Vinho Mateus Rosé, apenas 19,90€ a caixa de 6 garrafas. Laranja do Algarve, a 1,35€ o quilo. Atum, óleo Bom Petisco, 1,49€. Lusitânia Market, 56 Rue du Canal, em Longjumeau. Telefone 01-6920-4623.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13h30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E voltamos aqui ao direto e vamos até o Alentejo, mas passamos por Paris, evidentemente. Começa a ler qualquer coisa. As condições atuais são extremamente difíceis. As medidas do Estado estão a empobrecer famílias inteiras, isolar e deprimir indivíduos. Que fazer? Será que só temos duas soluções perante esta situação? Abdicação ou revolta? Ponto de interrogação. Carlos Balbino, boa tarde.
Boa tarde, Artur.
Ora, a Companhia de Revolucide e o Canto Alentejano revoltou-se. Está revoltado, de uma certa forma.
O Canto Alentejano e a cultura em geral está revoltada, mas há várias formas de se revoltar. Acho que o Artur se me convidou hoje é para falar em que maneira, ou de que maneira, é que o Rancho de Cantadores de Paris continua a fazer os ensaios nesta segunda ou terceira fase da pandemia. Não sei em que fase é que vamos lá. Efetivamente, na primeira fase, surpresos por isto tudo, fechámos as portas, não fizemos mais ensaios, mas na segunda fase, a partir de setembro, decidimos tomar outra atitude. Basicamente, esta reflexão divide-se em três partes, porque é dessas três partes que nasce a cultura ou que nasce a nossa política. A primeira é a imprensa. A imprensa é clara, há a proibição de todos os espetáculos abertos ao público em presencial, não é isto que eles têm estado a divulgar, mas no entanto temos coisas que a gente não compreende, por exemplo, como é que os metros todos os dias, os transportes públicos estão cheios nas horas de ponta, e como é que na época de Natal abrem as lojas e pode-se permitir essas grandes afluências de gente. E temos um exemplo muito interessante em Portugal, não sei se quem acompanhou o processo do Festival do Avante, como é que no meio de tantos festivais anulados e cancelados por causa dessas medidas da Direção-Geral da Saúde, como é que eles abriram esse festival? E basicamente, estudando a lei, lá descobriram que afinal os festivais não tinham sido proibidos, que foram as próprias estruturas que decidiram, por causa das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, que iam ter menos gente e que basicamente não ia fazer tanto lucro e que não valia a pena estar a abrir o festival. Ou seja, o Festival do Avante preferiu abrir o festival, fez o festival, e houve um grande momento de solidariedade e cumpriram com o limite das pessoas e isto tudo. Essa é a parte da imprensa. Depois temos a parte jurídica, que é esta que me interessa e que foi o Festival do Avante que me fez pensar. Que é basicamente, acho que cada associação ou cada estrutura é um caso diferente. E temos que ver qual é o estatuto de cada uma. Nós somos uma associação de interesse geral e temos uma licença de produção de espetáculos. Nós lançámos um CD em plena pandemia e tivemos que adiar uma digressão que íamos fazer em Portugal, de norte a sul do país. O que estamos a fazer neste momento, graças a este estatuto que nós temos, é de preparar essa produção de espetáculos que vai seguir. E é isso, o Governo autoriza. Há uma exceção, há uma testação que até está no site oficial, quem quiser vá ver, e é só preencher e assinar pelo Presidente da sua estrutura que pode haver essa atividade. Então é isso que nós estamos a fazer. Cada um faz como pode. Na realidade, o que é que se passa? Nós falamos com os nossos elementos e tentamos manter as atividades. No entanto, todas as atividades agora estão à porta fechada. Ou seja, não há contacto com o público nenhum. Somos só para nós, para tentarmos manter algum equilíbrio moral e psicológico também. Ou seja, respeitamos os limites dos lugares da sala onde nós ensaiamos. se vamos falar, por exemplo, no projeto de Canto Alentejano, respeitando então a capacidade máxima. Se a pessoa estiver doente ou com o início de uma febre, uma dor de cabeça, ou não se sente com tanta força, e dizemos para ficar em casa, para não vir, simplesmente. E depois cada um faz como sente. É verdade que há certas pessoas que desde o início desta nossa política, desde setembro que decidimos de reabrir os ensaios, decidiram não voltar a ensaiar connosco enquanto esta pandemia está. Temos um colega, por exemplo, que trabalha com pessoas a risco, e ele decidiu, não vale a pena eu vir aqui todas as terças-feiras à noite, todas as semanas, para um dia descobrir que eu é que sou responsável por uma divulgação deste vírus no nosso grupo. Então cada um faz como pode. E depois, claro, mantemos a máscara durante o ensaio. Para cantar, não vou mentir, temos que tirar a máscara, porque faz um efeito acústico muito estranho, o som entra diretamente nos ouvidos e não ouvimos os outros, mas estamos a distâncias largas, temos 4 mesas grandes no meio da nossa sala, porque a nossa sala é grande e cada um tem pelo menos 1 ou 2 metros de distância em cada um, e é nestes modos, a porta fechada, que a gente vai ensaiando.
Mas, Casmobina, há mais do que isso, para já há as oficinas semanais de Canto Alentejano, pintura criativa, aulas de português e mesmo formação ao balanço contabilístico das associações. E, portanto, sim, algo que vocês já realizaram.
Exatamente, e vamos também criar um vídeo brevemente com o apoio da Casa das Associações do Bairro 14, aqui de Paris, que vamos abrir a porta excepcionalmente para fazer uma gravação para o 25 de Abril. Eu acho importante as associações e os organismos culturais a explorarem esta parte social, a importância do fazer, a parte da criação, porque se estamos a pensar em benefício, não vai dar, não vale a pena fazer, não é? Mas há um lado psicológico da estabilidade das pessoas que fazem parte do grupo. E depois é outra coisa, é que há dois tipos de associações. Há as associações que fazem as suas próprias criações, como é o nosso caso, ou seja, os nossos artistas, os nossos membros, fazem aquilo que a gente leva para os palcos, e depois há as outras associações que organizam eventos, mas dependem de outros artistas. Essas, claro, eu acho que essas aí vão estar muito mais limitadas do que o primeiro tipo de associações.
Com efeito. Bom, vocês alargaram completamente as vossas atividades, quer dizer, aos poucos e poucos, o Canto Alentejano, bom, a partir era isso, e mesmo antes mesmo disso, Le Rêve, a Companhia de Rêve Lucide, começou por uma peça de teatro que eu estive presente, entre outros estava o Tiago Pereira também, que filmou.
Exatamente, nós começámos com um espetáculo de teatro, aliás, esta companhia é uma companhia de criações pluridisciplinares, mas rapidamente começámos então a coproduzir este documentário com o Tiago Pereira, da música portuguesa a gostar dela própria, e a partir daí foram projetos e mais projetos que vão aparecendo desta pesquisa do que é que se pode fazer mais, Desta companhia de teatro então apareceu este grupo, deste grupo apareceu a primeira escola de canto alentejano estrangeiro, dedicada a pessoas que não falam língua portuguesa. Dessa escola apareceu então um convite para fazer um CD que foi lançado agora na pandemia, e agora mais recentemente com um dos nossos novos elementos, a professora Eva Veloso, ela pôs à disposição de todos uma aula semanal por videoconferência a todos os elementos do grupo que queiram aprender pouco a pouco a falar português.
É verdade, e foi uma coisa extraordinária quando vocês vieram aqui pela primeira vez, tínhamos aqui uma mistura de nacionalidades a cantar quase sotaque alentejano, algo que eu adorei. Ora, Carlos Bobino, obrigadíssimo. Para terem todas as informações, meus amigos, relembro www.revplurallucide.org. Podem ir ao Facebook e por aí fora e terão todas as informações necessárias, e como diz outro, sem cultura não há vida. E obrigado, Carlos Bobino. E como diz o outro, não é por acaso que eu escolhi esta canção que vai passar agora, que o título é Além Daquela Janela. Eu, quando falo de janela, o que quero ver à frente é a cultura e todos os lugares de cultura abertos. É o que eu desejo, Carlos Bobino.
Muito obrigado, um excelente domingo a todos, e vamos para a frente, que isto aqui não é o final, é o início de qualquer coisa.
É verdade, parar é morrer. Vamos para a frente, além daquela janela.
Além daquela janela, dois olhos me estão matando.
E além daquela janela, dois olhos me estão matando. Matem-me de
daquela, aquela. Os olhos daquela lá.
Os olhos daquela, aquela. E os olhos daquela além são os olhos de uma rosa. Parecem os do meu bem. São os olhos de uma rosa. Parecem os do meu bem. Além daquela janela, dois olhos me estão matando.
On va changer de registre, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. On va parler de deuxième édition d'Effraction, le festival de littérature contemporaine organisé par Bibliothèque publique Information, Bibliothèque Centre Pompidou. Avec nous, on a une des programmatrices, Inès Carme, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette deuxième édition, on est en plein Covid, donc on passe par les réseaux sociaux, c'est ça?
Alors, on passe par les réseaux sociaux, notamment par la page Facebook du festival Effraction, mais aussi par un site dédié qui s'appelle Effraction au pluriel .bpi.fr et où tous les festivaliers pourront retrouver les rencontres en direct et puis en replay une fois qu'on les aura diffusées pour la première fois.
Alors, ces festivals, il y a la particularité de donner une vision de l'écriture et du lien entre le réel et la fiction. Bon, ça, on pourrait parler pendant une heure ou deux là-dessus.
Oui, tout à fait. Alors c'est un festival qui a été pensé pour être un peu un pendant littéraire au festival Cinéma du Réel, qui est porté par la Bibliothèque publique d'information depuis une quarantaine d'années. Et donc on a décidé de continuer cette ligne éditoriale qui est un petit peu aussi l'identité de cette bibliothèque, qui est une bibliothèque d'actualité, une bibliothèque d'information. Mais en effet, le thème réel fiction, réel littérature se décline à travers beaucoup de thèmes. On parlera cette année d'écologie, mais par exemple d'écologie à travers le polar. On parlera de jeunesse et le monde du travail, de mouvements de protestation politique, de rapport au corps, de poésie, d'exil. Enfin, voilà, énormément de sujets qui portent les débats contemporains, mais qui sont aussi des sujets qui travaillent la littérature depuis effectivement la nuit des temps.
Alors, il y a des questions qu'on peut se poser finalement, qui influence quoi? C'est le réel qui influence la fiction ou c'est le contraire?
Alors, je pense que c'est une question à laquelle on peut obtenir beaucoup, beaucoup de réponses, mais ce qui est intéressant dans les auteurs qu'on programme, c'est que certains auteurs prennent le parti très fort de la fiction, de l'invention. On a par exemple Laurent Mauvignier avec Histoire de la nuit, qui est un peu une espèce de, qui est une écriture de presque minute par minute de l'arrivée de vagabonds dans un patelin, presque à la manière d'un polar ou d'un, voilà. Et puis on a des auteurs comme Florence Aubenas, qui est une journaliste très connue et qui, elle, prend le parti du reportage littéraire pour raconter un fait divers qui l'a marqué. Donc en fait, je pense qu'on a autant de réponses que d'écrivains et d'écrivaines.
Oui, je pense que vous faites allusion à L'Inconnu de la Poste. Alors, si je me souviens, c'était un acteur qui était disparu parce qu'il y avait plein de problèmes. Mais Aubenas, je me rappelle également du livre qu'elle a fait avec Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, entre autres choses, sans oublier ses reportages en Irak et tout ça. Alors, justement, il y a une confrontation, je pense, parce que bon, maintenant, tout passe par les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que parce qu'en principe, il y aurait des rencontres, vous avez dû tout changer, la faction d'organiser le festival.
Oui, tout à fait. Alors, l'année dernière, on avait, pour l'inauguration du festival, en février 2020, on était passé vraiment tout juste avant le premier confinement. Donc on avait eu énormément de chance. Évidemment, cette année, les centres culturels étant fermés, on a été obligé de basculer en ligne, ce qui fait que on espère quand même pouvoir toucher un plus large public qui va au-delà du du centre Pompidou, du public du centre Pompidou. Et donc en fait, ce qu'on fait en tant que programmateur, c'est que on enregistre un certain nombre de rencontres avant un festival. Donc les auteurs se déplacent au centre Pompidou, et puis quand ce n'est pas possible, on fera un certain nombre de rencontres. Ça fait à peu près un tiers de la programmation en live, soit depuis le centre Pompidou, soit depuis le domicile des auteurs et des autrices, puisqu'on en a certains qui sont au Liban, par exemple, et dans d'autres coins de la France ou d'ailleurs.
D'ailleurs, je pense que vous faites allusion, parce qu'il va y avoir un certain nombre de des lectures musicales. Alors, musique, oui. Littérature, bon, c'est la même musique, c'est le dire, parce qu'un écrivain, il a un rythme quand il écrit.
Oui, tout à fait. Bah, c'était aussi un désir très fort de la programmation cette année que de donner à entendre les textes, parce que le public qui vient écouter les rencontres n'a pas forcément déjà lu les textes, et puis c'est toujours bien de se remettre en mémoire. Et donc on a fait le pari cette année de programmer une lecture, musicale ou non, par jour. On aura cette année, notamment le samedi 27 février, puisque le festival a lieu jeudi 25 février au lundi 1er mars. Donc le samedi soir, on aura par exemple Lucie Taïeb, qui est une autrice qui a écrit un reportage poétique qui s'appelle Fresh Kill, sur ce qui était la plus grande décharge à ciel ouvert au monde avant qu'elle soit reconvertie en parc écologique. Et elle va intervenir avec Manu Koggia, qui est un joueur de guitare électrique de jazz, et qui met en son son texte pour une création musicale inédite. On aura aussi Faisal Talik, qui est un joueur de oud et qui va accompagner Sylvain Prudhomme pour la lecture de certains extraits de son recueil de nouvelles Les Orages. Donc ça, ce sera dimanche soir. Donc voilà, plusieurs formats en effet de lecture musicale pour varier les plaisirs.
Alors vous parlez du dimanche 28. Alors à 16h, Collusion.
Oui.
Donc c'est un dialogue. Bon, il y a deux livres. Bon, Olivia Elkem pour Le Tailleur de Rélizane et Camille Schmoll pour Les Damnés de la Mer. Mm-hmm. Ça, c'est une initiative en partenariat avec le Musée de l'Histoire des Migrations.
Oui, tout à fait. Alors ça sera le lundi 1er mars à 16h. Oui.
Vous avez raison, je m'excuse.
On parle de chaque jour, c'est bien. Mm-hmm. Donc effectivement, on a un certain nombre de partenaires dans lesquels on serait... on n'aurait pas pu proposer une programmation aussi riche. Et cette année, on a ce partenariat avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration, avec qui on programme cette rencontre entre une autrice et une géographe. Donc l'autrice, c'est Olivia Elkaïm, et la géographe, c'est Camille Schmoll, autour de l'expérience féminine de la migration, qui est quelque chose qui est vraiment très peu envisagé, à la fois dans la recherche et dans la littérature contemporaine. Et puis, donc, ce format Collusion, en fait, c'est un format qui revient un petit peu tout au long du festival et qu'on a inauguré aussi l'année dernière pour faire dialoguer un auteur ou une autrice qui traite d'un thème particulier dans son livre avec un spécialiste, qu'il soit artiste, universitaire, scientifique, etc., pour aborder cette thématique. Donc là, cette année, on a intitulé cette rencontre « Odyssée de femmes en Méditerranée » pour parler de ces expériences féminines de la migration.
Donc on revient au réel.
On revient au réel, tout à fait.
Alors, donc l'année dernière, bon, le festival a pu avoir lieu normalement. Oui. Donc vous avez dit au début que justement c'est à travers les réseaux sociaux de la BPI, plus concrètement.
Alors le festival sera disponible principalement sur le site effraction.bpi.fr, effraction en pluriel, mais on a aussi une page Facebook du festival Effraction qui s'intitule Effraction Festival de Littérature Contemporaine, et sur lequel un certain nombre de rencontres seront retransmises en Facebook Live, mais il y aura toujours le lien pour accéder au site et accéder au live puis au replay de toutes les rencontres. Donc tout ça c'est relayé sur la page Facebook du festival et puis sur la page Facebook de la BPI, en effet, qui est la page mère, en fait, qui coordonne tous les événements de la bibliothèque.
Voilà, et tout ça démarre le jeudi 25 février à 20h, soirée d'ouverture. Alors, petite question, Inès Carme, la Covid, la culture, c'est plus une exception culturelle française, c'est une exclusion culturelle française. Vous vivez ça très mal au Centre Pompidou, non?
Alors, effectivement, la crise sanitaire nous a forcés à annuler le festival dans sa forme, disons, physique, présentielle. Mais comme je disais tout à l'heure, on espère vraiment que ce basculement en ligne va permettre de toucher un plus large public et d'aller d'être dans une diversité des publics qui sera plus grande que si on avait touché uniquement le festival, enfin le public du Centre Pompidou dans un instant T à un endroit spécifique.
Voilà. Vous me permettez, je peux aller faire des courses au supermarché avec plein de monde autour de moi, mais je ne peux pas aller au musée, c'est un rageant. Je parle pour moi.
Eh bien oui, on peut qu'espérer que l'année prochaine, le festival se fera en chair et en os, avec un public en chair et en os. Mais ça, je crois que je ne suis pas la seule à le souhaiter de tous mes voeux.
Voilà, Madame Bachelot a annoncé un certain nombre de choses, les musées, ceci et cela. Bon, il faut pousser, pousser. Inès Carme, merci. Donc, je répète, deuxième édition du festival Effraction du 25 février au 1er mars. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Bon vent. Et estamos a chegar praticamente ao final da emissão. Obrigado a todos e a todas. Obrigado a Manuel Alexandre igualmente. Esperamos voltar aqui no próximo domingo, é dia 28. É raro termos um mês de fevereiro com quatro domingos. Mas enfim, bom, bref. Como diria outro, vamos voltar um bocadinho atrás, já que estamos a falar de coisas tanto do futuro como do passado. Vamos voltar a 1991, um extrato do primeiro disco de Mísia, o título do álbum, aliás, era Mísia. Ai, que pena, eu não tenho pena nenhuma, peço desculpa, porque já estou cheio de fome. Até para a semana.
Só uma pena me assiste e me alaga de tristeza. Não ser toalha de linho, não ser toalha de linho a cobrir a tua mesa. Não ser um jarro de vinho, não ser um jarro de vinho, não ser a fruta de pão. Nem ser um talher de prata, nem ser um talher de prata no calor da tua mão. Só uma pena me assiste, pena que pena, não ser o pão que tu comes, pena que pena, com esse trigo amassado, mataria duas fomes. Ah, que pena. Só uma pena me assiste, pena que pena, não ser convidado à mesa, pena que pena, encher de coisas doces o prato da sobremesa. Que pena! As penas são os cristais, as penas são os cristais desta ceia cintilante. Mesmo amando-te demais, mesmo amando-te demais, nunca o amor é bastante. Nunca se morre de fome. Esta pena, ui, me assiste. Só uma pena me assiste, pena que pena, não ser o pão que tu comes, pena que pena, com esse trigo amassado, mataria duas fomes. Ah, que pena. Doces, o prato da sobremesa. Que pena! Que pena, que pena! Que pena, que pena! Ui, que pena! Só uma pena me assiste, pena que pena.
mesa, que pena, que pena, para te encher de coisas doces o prato da sobremesa. Ai, que pena.
Alfa 98.6.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Alfa 98.6.
Para sempre no meu coração. Nada vai levar você de mim, ou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir.
Yeah, hoje eu só queria voltar para o teu mundo, ficar contigo só sentado e mudo. É que às vezes eu estou estressado e burro, mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo. E hoje não quero saber de estúdio, hoje tudo o que me interessa és tu. Mas vou falhar contigo por não ser perfeito, porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa a comparar com tu. Agora até guio com mais cuidado, e esses bifes já não me deixam irritado. E as canuquinhas na fila para tirar foto fazem-me lembrar de ti, e o pai fica todo babado. E perguntaram se eu comprei a caçadeira, porque ter uma princesa ainda por cima era a primeira. Só se for para atirar para o ar, na boa só para avisar que chegou a felicidade, mas da mais pura e verdadeira.
Para sempre no meu coração. Nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir.
Yeah. Isto é daquele amor que não tem distância, só dor no peito, importância e substância. E o engraçado é saber que o que me cansa é dar-te a liberdade para voar, depois vir a ansiedade. Dizer-me que é para sempre e que tenho que honrar o compromisso. Para e pensa e agradeça à tua mãe por isso. Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil, mas tu és linda e por favor nunca duvides disso. Um dia levo-te ao altar, agora não penso nisso porque ainda não é hora. Vou confiar em ti, és tu quem manda na tua vida, mas se ele não te respeitar, vou-lhe explicar que tenho que saltar fora. Só quer ser bom pai, não te desiludir. Sei que não vai ser fácil, mas um dia se eu não conseguir, quando me quiseres para celebrar, eu vou sorrir daqui. Quando fracassares, nunca te esqueças que eu estou cá para ti.
Para sempre no meu coração. Nada vai levar você de mim, com você até longe daqui. Para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir.
Yeah. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre. Eu e tu é pra sempre.
Só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir.
Teu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão.
sempre a voar, pensamento distante. Eu me perdi.